Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bienvenue dans ce service protestant sur France Culture. Il va être question d'amour aujourd'hui, l'amour qui en effet est au centre de la foi chrétienne. Nous entendrons le pasteur James Woody de l'Église protestante unie de France à l'Oratoire du Louvre à Paris. Il nous propose un commentaire d'un texte écrit par l'apôtre Paul et adressé à la première communauté des chrétiens de Corinthe.
Chers amis, je suis heureux de vous rejoindre pour ce temps de célébration radiophonique. Je vous propose de partir à la découverte d'un texte écrit autrefois par l'apôtre Paul à la communauté de Corinthe. C'est un texte que nous trouvons au chapitre 13 de sa première lettre aux Corinthiens. C'est un texte que vous avez peut-être déjà entendu à l'occasion d'une cérémonie. C'est un texte qui parle de l'amour. Nous allons partir à la rencontre de ce texte pour essayer de comprendre ce qu'aimer veut dire. Rien de moins. Pour le moment, je vous propose de nous associer au chant du psaume 92 que nous allons entendre. Commençons à découvrir ce texte de Paul et entendons les premiers versets comme une expression de ce que nous sommes appelés à vivre. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ce que l'apôtre Paul écrit de l'amour peut inspirer notre prière. Nous réalisons à quel point il nous arrive de nous tromper de vie. Nous voulons briller en société, montrer que nous sommes pleins de savoir, pleins de talent, et ce que nous montrons, c'est que nous sommes gonflés d'orgueil, pleins de nous-mêmes. C'est nous que nous montrons très bien, que nous mettons en évidence. Nous réalisons à quel point ce plein de nous-mêmes nous empêche de faire attention à ceux qui sont autour de nous. Oui, nous pouvons être capables de soulever des montagnes, mais si nous ne sommes pas animés et guidés par l'amour, ces montagnes, nous risquons de les faire retomber sur le coin de la figure du premier venu. Nous réalisons aussi qu'il nous arrive de servir notre prochain pour nous servir nous-mêmes. Nous réalisons que nous nous servons des pauvres, des malheureux, pour nous mettre en évidence, pour nous faire valoir. Éternel notre Dieu, aide-nous à quitter nos vies égoïstes pour emprunter tes chemins généreux. Aide-nous à vivre à la hauteur de ce que tu nous proposes et que nous désirons au plus profond de nous-mêmes, mais que nous n'arrivons pas toujours à réaliser, en tout cas pas sans ton aide, sans l'aide de nos frères et sœurs. Amen. L'amour. L'amour. Ce peut être la tarte à la crème de la théologie chrétienne. On peut mettre l'amour à toutes les sauces. Et il arrive parfois que le mot amour soit tellement prononcé que cela nous écœure de l'amour. Et pourtant, l'amour est plus que le cœur de la foi chrétienne. Selon la lettre de Jean, l'amour, c'est l'autre nom de Dieu. Oui, Dieu est amour, c'est ce que nous croyons. Par amour, Dieu, notre Père, a créé le monde. Son Fils, Jésus-Christ, a vécu, est mort et ressuscité pour que l'amour naisse au cœur de tous les hommes. Son Esprit nous rend responsables et libres pour vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle, aujourd'hui comme chaque jour, à répondre à son amour. Dans l'Église comme artisans de vérité et de pardon, parmi nos contemporains comme artisans de justice et de paix. Dans son royaume qui vient, où l'amour éclaire toute chose, Dieu est amour. C'est ce que nous croyons. Amen. Avant de méditer la suite du texte biblique, nous prions pour que notre lecture soit ouverte à ce que Dieu nous révèle. Éternel, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton évangile, sous une autre lumière. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que par ton esprit, nous soyons prêts à répondre à ton appel comme de vrais enfants d'Abraham. Amen. Voici la suite du chapitre 13 de la première lettre de l'apôtre Paul à Corinthe. Nous en sommes au verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties ? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues ? Elles cesseront. Y a-t-il du savoir ? Il aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant au travers d'un verre, obscurément, mais alors, nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai à fond, comme aussi j'ai été connu. Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Chers amis, qu'est-ce que l'amour ? Vaste question. Avec ce texte de l'apôtre Paul, nous apprenons déjà ce que n'est pas l'amour, ce qui n'est pas si mal. Dans la perspective de Paul, disons-le clairement, l'amour n'est pas un sentiment. Ici, il n'est pas question de sentiments amoureux, ni d'émotions. Avec Paul, il n'est ni question de se regarder les yeux dans les yeux jusqu'à se perdre dans le regard de l'être aimé, ni de regarder ensemble dans la même direction, comme le suggère Antoine de Saint-Exupéry. Certes, nous pourrions avoir l'impression que Paul dresse une liste de qualificatifs au sujet de l'amour qui nous permettrait de découvrir ce qu'est l'état amoureux. Mais à y regarder de plus près dans le texte grec, tout ce passage est rédigé avec des verbes actifs et non avec des adjectifs. Paul ne parle pas d'état amoureux, il raconte ce dont l'amour est capable, ou, nous le verrons, ce dont l'amour nous rend capable. Par exemple, le texte grec ne dit pas que l'amour est patient, mais que l'amour patiente. Il y a là une différence majeure. Parfois, nous avons de l'amour une vision toute romantique en le concevant soit comme une sorte de fluide qui nous guérit de nos malheurs, de nos mauvaises humeurs, de notre mélancolie, soit comme un état de parfait bonheur lorsque tout est beau et bien, la pure harmonie avec la vie. Paul nous mène sur une autre piste en nous révélant l'amour qui agit, qui entreprend, qui crée, qui innove. Aimer, selon l'apôtre Paul, c'est une histoire d'action, de pratique, c'est dynamique. Vous l'aurez compris, ici, il n'est pas question d'aimer au sens d'aimer le chocolat. L'amour est bien au-delà de tous les sens, gustatifs ou autres. Il n'est pas non plus question d'aimer au sens d'aimer quelqu'un d'aimable, un ami par exemple. Dans ce cas, Paul aurait employé le mot grec « philo », comme dans « philosophie », l'amour de la sagesse, ou dans « philanthropie », l'amour de l'humanité. L'amour-amitié se construit sur l'échange, sur la réciprocité. L'amitié se tisse peu à peu par des services rendus mutuellement, par le partage des idées, des projets, des difficultés, tout ce qui nourrit l'amitié. Ce n'est pas non plus l'amour éros, l'amour que l'on porte à l'être aimé, comme on dit, celui auquel on s'unit par un lien nuptial, par un rapport sexuel. L'amour érotique, c'est l'amour qui repère chez l'autre ce qui nous manque et que nous voulons obtenir. L'amour éros va chercher chez l'autre le plaisir qui nous fait défaut. Il y a une recherche de complétude dans cette forme d'amour. L'autre a quelque chose dont je veux jouir. C'est une forme d'amour qui accapare. L'amour dont parle Paul est encore une autre forme d'amour, que la langue grecque nomme agapé, et qui est parfois traduit en français par charité. L'amour agapé dont il est question ici et ailleurs dans le Nouveau Testament est un amour qui n'est ni dans la logique du bien-être, ni dans la logique du donnant-donnant, ni dans la logique du désir d'obtenir la part de l'autre qui me manque. C'est une logique du don, ou de la grâce pour le dire avec un mot théologique. Les verbes employés par Paul renvoient tous à cette même réalité, l'amour offre. Il offre la possibilité à quelqu'un d'exister vraiment. C'est un amour qui prend soin de l'autre, à la fois en le respectant, en lui faisant de la place et en agissant en sa faveur. Ce n'est donc pas une affaire de bons sentiments. On n'a pas besoin d'être amoureux de l'autre pour l'aimer. Paul nous fait comprendre que nous sommes en mesure d'aimer quelqu'un même s'il n'est pas aimable. Il est possible de prendre soin de lui, d'être l'artisan de son épanouissement, sans qu'il ait besoin d'être attirant, intéressant ou qu'il puisse m'être utile d'une manière ou d'une autre. Parmi tout ce qui fait l'amour, je retiens ce qui me semble être sa plus grande force. L'amour l'emporte sur la mort. C'est ce que Paul exprime au verset 8, en écrivant que l'amour ne succombe jamais, qu'il ne chute pas. J'y lis ici que l'amour est ce qui nous permet d'accéder à la vie éternelle, d'ores et déjà, parce que l'amour nous permet d'agir d'une manière inconditionnelle et non selon les effets de mode qui disparaissent tôt ou tard. L'amour nous permet d'agir de manière inconditionnelle, sans se conformer aux qu'en dira-t-on, aux pressions amicales ou familiales, aux intérêts partisans qui sont toujours affaires de circonstances et qui un jour disparaissent. L'amour inscrit notre vie dans la vie éternelle, cette qualité de vie que rien ne peut altérer, pas même ce qui peut figurer la mort. Jésus l'avait expliqué à ses disciples avant de les quitter. L'amour est ce qui permet de surmonter les deuils et toutes les formes de séparation. L'amour est ce qui permet à nos enfants de devenir adultes et de prendre leur envol, loin du nid familial, sans peur de se perdre ni de s'abîmer dans la vie. L'amour, c'est aussi ce qui permet de surpasser la distance qu'il y a au sein de chaque être humain, la distance qui nous sépare de celui que nous aimerions être, que nous pourrions être, cette distance entre moi et moi que la Bible appelle le péché. L'amour est ce qui permet de dépasser les ruptures choisies ou subies qui sont autant de deuils qui ne constituent plus le dernier mot de notre histoire, grâce à l'amour que nous recevons d'un autre et qui nous dit que nous avons non seulement du prix à ses yeux, mais que nous avons encore des choses à vivre, à éprouver, que nous pouvons encore faire histoire. Tout cela est-il trop beau pour être vrai ? C'est un reproche adressé à la foi chrétienne qui semble animer de belles idées inaccessibles. Mais cet amour est vrai, réalisable, vivable par chacun d'entre nous. Certes, l'amour agapé n'existe pas comme cela à l'état pur. Cet amour qui trouve sa source en Dieu ne peut s'exprimer qu'à travers ce dont nous sommes capables, la philéia ou l'éros. À chaque fois que nous aimons, en nous laissant traverser par la grâce divine, par cet amour désintéressé qui s'efforce de prendre soin de l'autre, nous transfigurons l'amour dont nous sommes capables et nous le portons à son incandescence. Dès lors, l'amitié devient une manière de participer à l'épanouissement de nos amis, sans espérer quelques retours sur investissement. Dès lors, l'amour éros cesse d'être une manière de vampiriser celui ou celle que nous aimons. Il n'en fait plus un objet de consommation, car éclairé par l'agapé, il permet d'envisager l'autre comme le partenaire d'une véritable chorégraphie du désir. L'amour agapé est non seulement possible à notre niveau, mais il nous ouvre à une dimension de la vie qui nous échappe si souvent, celle de la connaissance véritable. Comme l'écrit Paul, nous voyons souvent ce qui nous entoure de manière déformée, à travers le prisme de notre savoir toujours partiel et partial. L'amour, c'est ce qui nous permet d'aller au-delà des apparences, au-delà des faux-semblants. Pour bien connaître un sujet, il faut l'aimer. L'aimer pour ce qu'il est, avec bienveillance. On ne parle bien d'une religion que si l'on a pris soin d'aller à sa rencontre, jusqu'en sa plus grande intimité. On ne parle bien de quelqu'un qu'à la condition d'avoir brisé le vernis derrière lequel chacun se dissimule et se protège. Nous-mêmes. Nous sommes connus de Dieu au-delà de nos ambiguïtés, de nos ambivalences, de nos paradoxes, au-delà de cette distance qui nous éloigne de nous-mêmes, de notre identité profonde. Cette connaissance est accessible par notre propre amour, par l'engagement de tout notre être. Oui, nous pouvons voir la vie face à face, sans écran, sans force d'interposition, sans autre médiateur que le Christ. La manière par laquelle les chrétiens désignent cette dynamique de vie qui réinjecte sans cesse dans notre chair, dans notre trajectoire personnelle, la possibilité d'une vie à hauteur de Dieu. Une vie gourmande, qui se place face à l'ultime, au lieu de se maintenir dans les caveaux de l'existence. L'amour nous rend libres de donner le meilleur de nous-mêmes à celles et ceux que nous rencontrons, pour les aider à être, eux aussi, plus épanouis, plus libres, et donc plus responsables dans leur vie quotidienne. Aimer, c'est faire grandir celui qui est proche de nous, lui donner accès à un plus haut niveau d'existence selon ce que les évangiles nous donnent à voir dans les rencontres que Jésus a faites tout au long de son ministère. L'amour nous permet de mieux nous connaître les uns les autres, de nous rendre toutes et tous plus familiers, moins étranger et donc moins inquiétant. L'amour, en favorisant cette connaissance de ce qui constitue le monde, nous libère de nos peurs et, ce faisant, libère toutes nos énergies. Chers amis, aimer, c'est la meilleure manière de célébrer la vie. Amen. Pour accomplir ce temps de culte, nous pouvons nous unir à nouveau dans la prière afin d'exprimer notre espérance pour nous-mêmes et pour le monde. Seigneur, nous remettons à ta compassion et à ton amour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Nous te remettons nos frères et nos amis, les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants. Accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples, afin qu'ils recherchent la justice et la paix. Fais de nous des ouvriers de paix. Nous remettons à ton inspiration et à ton amour les artistes et les savants, afin qu'ils cherchent le vrai secret et disent le vrai désir de ta création. Nous remettons à ta grâce et à ton amour toutes celles et tous ceux que tu confies toi-même à notre amour et à notre prière, tous ceux que nous aimons et tous ceux que nous n'arrivons pas à aimer, tous ceux avec qui nous travaillons. Accorde-nous de les aimer en ton nom. Nous remettons à ta fidélité et à ton amour toute ton Église, en particulier là où elle est en butte aux tracasseries du pouvoir, là où elle est persécutée, ou encore là où elle subit la tentation du pouvoir. Donne-lui courage et fidélité. Nous t'en prions, Seigneur. Nous nous remettons nous-mêmes à toi, notre Père, et à ton amour, afin que tu nous gardes près de toi, et en même temps que tu nous envoies en ton nom dans le monde. Nous t'en prions, Seigneur, exauce-nous. Et nous rassemblons tout ce que nous n'avons pas réussi à te dire dans les mots que Jésus a enseignés à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers amis, poursuivons maintenant le reste de notre journée et de notre vie, conscients de savourer la vie d'autant plus intensément que nous aimons d'un amour divin et que nous nous laissons aimer de la sorte. L'Éternel, le Dieu de Jésus-Christ, nous comble de joie et de paix pour que nous vivions tous de cet amour. Amen.
Ainsi s'achève ce service protestant avec le pasteur James Woody de l'Église protestante unie de France à l'Oratoire du Louvre à Paris. Merci à Luc Jean Reynaud pour la réalisation de cette émission, à Philippe Bredin pour la prise de son. Le service protestant est proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Vous pouvez recevoir le texte de cette émission par courrier en écrivant au service radio de la Fédération protestante de France. C'est au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Vous aurez aussi des informations complémentaires en téléchargement et podcast sur franceculture.fr ou protestant.org. Dans un instant, le journal à 9h sur France Culture. Auparavant, une petite escapade dans l'histoire des protestants avec Culture Protestante. Bon dimanche à tous.